Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un front syndical uni contre le gouvernement qui a présenté hier sa réforme des retraites. Tous appellent à une nouvelle journée de mobilisation mardi prochain et dans les transports. La grève se poursuit. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
Les élections législatives en Grande-Bretagne, les électeurs vont-ils choisir le Brexit avec Boris Johnson ou un second référendum avec Jeremy Corbyn? Dans ce journal, gros plan sur le vote des jeunes. La vente de médicaments à l'Union. Unité, proposition débattue à l'Assemblée mais rejetée par les pharmaciens. Un scanner pour chevaux de course en Normandie et puis le carton du PSG hier soir 5-0 face au Galatasaray.
Et trois invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
S'il n'en restait qu'un, il serait celui-là. Le MEDEF est le seul des partenaires sociaux à avoir applaudi hier le discours du Premier ministre. Il se dit prêt à jouer le jeu de la retraite à points dans les entreprises. Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron des patrons, sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, le grand entretien de la matinale avec la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert et vous attend. Et puis à 8h45, donc un troisième invité, le secrétaire général de l'UNSA, Laurent Escure.
France Inter. Le bras de fer commence maintenant, loin d'apaiser le conflit. Les annonces d'Édouard Philippe ont fait basculer les syndicats réformistes, CFDT, CFTC et UNSA, dans le camp des opposants. Les cheminots de la SNCF, les conducteurs de la RATP, les CRS, les électriciens, les gaziers continuent de rejeter le passage à un système universel par points, refusant la disparition des régimes spéciaux à partir de la génération 1985. Pas convaincus non plus les enseignants. Le Premier ministre s'est pourtant engagé hier à augmenter les rémunérations à partir de 2021 pour maintenir le niveau des pensions. Mais Alexis Morel, la méfiance reste de mise.
Il n'y a pas eu un avant et un après le discours d'Édouard Philippe pour Laurie. Cette professeure des écoles parisiennes, syndiquée au SNUIPP, estime qu'aucune annonce du Premier ministre ne justifie d'arrêter la grève. Bien au contraire, selon cette enseignante, ça peut même remobiliser ses collègues.
Je pense que ces déclarations vont être contre-productives parce qu'en fait, il a juste annoncé ce qu'on savait déjà, contre lequel on se bat en fait. La mobilisation continue et la mobilisation va s'accentuer, je pense. On est prêt à un mouvement long, en tout cas jusqu'aux vacances.
Message reçu 5 sur 5 par Camille, elle aussi enseignante en primaire.
Je serai en grève ce jeudi, probablement ce vendredi aussi, et je pense reconduire aussi une partie de la semaine prochaine. Il faut qu'on la tienne, cette mobilisation, et qu'on l'amplifie tant qu'on n'arrivera pas à les faire reculer sur leurs projets.
Le retrait pur et simple de la réforme des retraites, c'est le principal mot d'ordre de ces enseignants. Au lendemain des annonces du Premier ministre, Jacques prévient.
Si c'était pour nous faire rentrer chez nous, c'est raté. Hein.
Et ces enseignants parisiens mobilisés doivent se retrouver dès ce matin en Assemblée Générale.
Et de leur côté, les CRS ont commencé à réagir hier soir en multipliant les arrêts maladie avant la prise de service. Les syndicats de policiers qui sont invités à discuter cet après-midi au ministère de l'Intérieur. Je suis ferme mais pas fermée à la discussion, c'est le message qu'Édouard Philippe a tenté de faire passer hier soir sur TF1. Mais pour la CFDT, la ligne rouge est bel et bien franchie. Le syndicat dirigé par Laurent Berger est favorable au système universel, mais rejette totalement l'âge pivot à 64 ans qui sera mis en place progressivement à partir de 2022. L'exécutif se prive ainsi d'un de ses alliés dans cette réforme. Comment et pourquoi cette décision a-t-elle été prise? Récit signé Cyril Gradiani.
Quand vers minuit 30, dans la nuit de mardi à mercredi, dans le salon des ambassadeurs, à l'issue de l'ultime réunion de calage à l'Elysée, un des participants lance à la volée « Donc, on acte qu'on va perdre la CFDT ». Quasi unanimement, ministre parlementaire exécutif acquiesce, une partie de notre électorat nous attend sur l'équilibre budgétaire, lance un des invités. Un autre renchérit, il faudrait peut-être prévenir Berger. Personne ne passera de coup de téléphone, croit savoir un intime d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a fait un choix assumé de se passer des syndicats réformistes et de passer en force. Son conseiller Philippe Grandjean raconte un témoin n'en menait pas large, lui l'ancien collaborateur de Nicole Notta dans les années 90 au syndicat. Au sommet de l'État, on considère que Berger a commis une erreur en refusant toute discussion sur les mesures d'âge, une décision glisse l'entourage du président contraire à l'ADN de son organisation. La CFDT s'il manifeste, mais j'en doute, glisse un ténor de la majorité sera de toute manière inaudible s'il rallie CGT et FO dans les cortèges. L'exécutif fait ce pari. Seul contre tous.
Ce matin donc, le mouvement de grève entre dans sa deuxième semaine et une huitième de matinée de galère dans les transports, notamment en Ile-de-France. Les prévisions de circulation sont identiques à celles d'hier. À noter, 7 dépôts de bus de la RATP bloqués ce matin par des grévistes et déjà Plus de 300 km de bouchons sur les routes d'Île-de-France. Nous ferons le point en direct après le journal. Face à l'inquiétude des commerçants en cette période de Noël, le gouvernement va réactiver la cellule d'accompagnement des entreprises mise en place lors de la crise des Gilets jaunes, avec à la clé de possibles suspensions de charges, de chômage partiel et d'ouverture le dimanche. La réforme des retraites, on y revient donc à 8h20 avec la porte-parole du gouvernement et à 8h45 avec le secrétaire général de l'UNSA. L'UNSA qui, rappelons-le, appelle à participer à la journée de mobilisation mardi prochain. Total renvoyé devant la justice par deux ONG qui dénoncent des projets d'exploitation pétrolière en Ouganda. C'est une possibilité offerte par la nouvelle loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Les Amis de la Terre et Survie estiment que les projets de Total porteraient atteinte à l'environnement et aux droits des habitants à conserver leurs terres. Deux d'entre eux vont d'ailleurs venir témoigner devant le tribunal de Nanterre. Jean-Philippe Degnaud.
Des centaines de puits de forage, un millier de kilomètres d'oléoducs, des centaines de milliers de barils produits chaque jour, les projets de Total vont contraindre au déplacement de quelques 50 000 Ougandais sur des terres dont certaines sont au cœur du parc naturel protégé des Murchison Falls. C'est ce que décrit Thomas Baer, le militant de survie qui s'est rendu sur place.
Les personnes doivent attendre entre un an et demi et deux ans avant de toucher les compensations pour des terres. De plus, ces personnes-là ne peuvent pas, via les compensations, racheter des nouvelles terres de taille équivalente. Les compensations sont bien inférieures au prix des terres. Le gouvernement, via par exemple l'agence routière, compense dans les mêmes zones entre 3 et 5 fois plus que ce que fait Total.
Et c'est tout cela qui entraîne des situations de famine que vous avez constatées ?
Exactement. Ces fermiers, ces milliers de fermiers, doivent attendre d'avoir une compensation, mais donc un an et demi ou deux ans après, pour pouvoir commencer à s'en sortir.
Les Amis de la Terre et Survie vont tenter d'obtenir du tribunal de Nanterre de contraindre Total à revoir ses projets. Total qui certifie que ses études d'impact ont été réalisées dans le respect des standards internationaux afin d'éviter ou de minimiser les impacts sociétaux et environnementaux.
France Inter, il est 7h07 et c'est l'heure de vérité pour Boris Johnson en Grande-Bretagne.
Le Premier ministre réclamait depuis des semaines des élections législatives pour enfin concrétiser le Brexit. Les bureaux de vote ouvriront dans une heure. Un scrutin qui mobilise les jeunes. Il serait près d'1,5 million à s'être inscrit récemment sur les listes électorales. Sur le campus Queen Mary de l'Université de Londres, Marie-Pierre Véraud a rencontré Juliette et Emma, deux jeunes étudiantes qui n'avaient pas l'âge de voter lors du référendum de 2016 et qui aujourd'hui comptent bien faire entendre leur voix.
Sur le campus, c'était vraiment la folie. Il y avait des prospectus partout pour s'inscrire sur des listes électorales. Et avec nos amis, on en parlait pour s'assurer que tout le monde s'était enregistré.
Il y avait des stories sur Instagram. Inscris-toi, inscris-toi, tout le monde te le rappelait.
Juliette votera travailliste pour avoir son mot à dire lors d'un nouveau référendum. Mais le cœur d'Emma balance entre le Labour et les libéraux-démocrates.
Je ne sais vraiment pas. Je pense qu'il faut un second référendum, une nouvelle opportunité de s'exprimer, notamment pour les jeunes qui n'ont pu le faire avant. Mais sur plein d'autres sujets, je me sens plus proche des Lib Dem.
Or, ce parti souhaite juste annuler le Brexit sans consulter de nouveau les Britanniques. Luca, lui, choisit le camp de Boris Johnson pour enfin en finir.
Je ne pense pas que proposer un second référendum qui va encore nous diviser et prolonger un peu plus le processus apporte une réponse saine au Brexit.
Le Brexit a tellement duré qu'il est devenu une unité de mesure. C'est ainsi qu'Emma évalue sa relation avec son petit ami.
On en est à notre troisième report du Brexit et notre couple tient toujours.
Il vaut mieux en rire, conclut-elle. Sinon, c'est à pleurer. Londres, Jean-André Giannichini, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Séjour de vote également en Algérie. 5 candidats en lice pour des élections présidentielles très largement rejetées par la population. Hier encore, des milliers de personnes ont manifesté dans les rues d'Alger pour dénoncer une mascarade électorale. Nous serons à Alger dans le journal de 7h30. Et puis, élections à venir également en Israël. Les troisième en moins d'un an. Elles auront lieu le 2 mars prochain pour tenter de trouver enfin une majorité pour gouverner. Aux États-Unis, la peine de mort a été appliquée à 22 reprises cette année. La dernière exécution a eu lieu au Texas la nuit dernière.
Retour en France, il est 7h09 avec la suite, Agnès, de l'examen du projet de loi anti-gaspi à l'Assemblée.
Et les députés se penchent actuellement sur l'article concernant la vente de médicaments à l'unité. C'était un engagement de campagne d'Emmanuel Macron, sachant que chaque Français gaspille plus d'1,5 kg de médicaments par an. Pourtant, Daniel Messager, la mesure est loin de faire l'unanimité.
Le médicament à l'unité existe déjà aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Son application est donc réalisable. Mais ce projet suscite une franche opposition de la part des pharmaciens d'abord. 60% des médicaments sont délivrés pour des maladies chroniques, disent-ils. Donc, ils disposent déjà d'un conditionnement particulier. Par exemple, pour un traitement d'un mois, 3 plaquettes de 10 comprimés dans une boîte, on ne va pas recréer un autre mode d'emballage. Pour une personne qui a plusieurs types de médicaments, et c'est souvent le cas, ils seraient tous mélangés, le bleu, le rose, le jaune, dans un même sachet. Ça risque de créer de la confusion. Et puis il y a la traçabilité que mettent en avant les fabricants. Depuis quelques mois commence à s'appliquer un système avec des boîtes scellées pour lutter contre la contrefaçon. Pour un médicament à l'unité, ce ne serait pas envisageable et ça pourrait entraîner un risque sur l'origine. Si la majorité veut respecter ses engagements, elle devra passer outre ses réticences. Il y aurait aussi une autre solution pour moins gaspiller, ce serait de moins consommer et que les médecins parviennent enfin à rédiger des ordonnances un petit peu plus courtes.
On reste dans le domaine de la médecine, mais cette fois celle appliquée aux chevaux. La France possède un vrai savoir-faire dans ce domaine avec un centre en Normandie mondialement reconnu. Radiographie, scanner, IRM, tout ce qui se fait chez l'homme a été adapté aux chevaux. Sophie Bécherel a visité ce centre qui dépend de l'école vétérinaire d'Alfort.
Il a 11 ans, c'est un professionnel du saut d'obstacle et ce jour-là, il s'apprête à passer une IRM et un scanner à cause d'une articulation douloureuse. Amélie Talage est vétérinaire au centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices.
Les chevaux qui boitent, c'est le motif de consultation numéro 1 chez les chevaux.
Comme pour les sportifs de haut niveau, il s'agit de gérer les douleurs du squelette, les inflammations, parfois dès le début de la carrière d'un cheval à 2 ans.
Ils peuvent déjà avoir de l'arthrose dans le dos, ils peuvent déjà avoir des lésions par exemple sur les boulets. Chez les chevaux de course, c'est assez fréquent puisque justement l'os a des fois des difficultés à s'adapter à la charge de travail. Et on retrouve exactement les mêmes pathologies chez l'homme.
Après l'anesthésie générale, ce n'est pas une mince affaire d'installer sur la table d'examen une bête de 600 kg. La prouesse a consisté à adapter les outils de diagnostic de la médecine humaine aux chevaux et en particulier à agrandir la table du scanner. Fabrice Audigier est directeur du CIRAL et spécialiste en imagerie.
Donc la table a été très travaillée. Pendant 2 ans, on l'a améliorée. Donc voilà, c'était la première table qui était réglable en temps réel en hauteur. C'est un peu une prouesse technologique pour une table qui peut aller à déplacer le cheval avec une précision inférieure au millimètre sur des chevaux qui peuvent atteindre 700 kg.
Avec ce scanner, l'épaule, l'encolure, les hanches sont désormais accessibles. De quoi avoir arrivé dans ce centre de référence des cracks de toute l'Europe.
Et si vous voulez voir à quoi ressemble un scanner pour canasson, rendez-vous sur franceinter.fr. Lui a retrouvé toute sa puissance après de multiples blessures. Neymar, héros de la victoire du PSG hier soir face à Galatasaray 5-0 pour le dernier match de poule de la Ligue des Champions. Un but, 2 passes décisives, un autre but créé et ce pénalty offert à Cavani en fin de match. Le PSG déjà qualifié pour les 8e termine en tête de son groupe.
Merci Agnès Soubirant.